Regardez maintenant une autre réflexion. J'aborde la question par différentes facettes. Existe-t-il des règles à suivre pour aborder les apparitions et les révélations privées? Alors, il y a des règles qui ont été établies au cours des siècles, après beaucoup de réflexions, soit par des directeurs spirituels sérieux, notamment qui avaient en charge des mystiques, soit par des spécialistes des phénomènes mystiques, soit par les papes. Afin de guider les personnes intéressées par des révélations privées. Je vous recommande un petit livre qui s'appelle Une douce petite voix. Je l'ai oublié, il est sur mon bureau, puis j'ai oublié de le descendre. D'un capucin américain qui s'appelle Bénédicte Gruchel, qui est prêtre, psychologue et cofondateur des franciscains du Bronx. Donc, dans ce petit livre publié en 2003 aux éditions des Béatitudes, qui s'appelle Une douce petite voix, guide pratique sur les révélations privées. Il donne quatre règles. Il dit, première règle, il faut garder une certaine distance devant toute revendication de révélation. Les gens qui deviennent très très fanatiques d'un lieu d'apparition, etc. Bon, on se calme, on garde une distance toujours. En ce sens, il faut dire que certaines communautés nouvelles ont été fort imprudentes. Je pense à notamment à la communauté de Béatitude, qui dans ses publications Feu et Lumière et compagnie, a depuis longtemps mis les messages de Marie à Medjugorje en grand, long, large et en travers, enfin, comme une sorte de fondement sur lequel il s'appuyait, quoi, hein. Il n'y a pas de distanciation. Toujours garder une antenne critique, une distance. Notamment quand c'est en cours et que l'Église ne s'est pas prononcée. Bon. Deuxième règle, elle concerne la vérité des apparitions privées. Aucune révélation privée ne vient directement de Dieu, sans passer par un prisme, celui de notre psychisme. Et en conséquence, aucune ne peut être présumée sans conteste authentique. Il peut toujours y avoir des scories, des problèmes à cause des prismes. Bon. Troisième règle concerne la portée des révélations privées. Une révélation privée est par définition personnelle. Elle devrait dès lors être utilisée avec circonspection par ceux auxquels elle a été destinée, seulement dans les limites que pose habituellement la sagesse humaine, et jamais de façon déraisonnée, ni contre l'enseignement de l'Église. Elle ne doit jamais être considérée comme un guide infaillible. C'est pas parce que la Vierge Marie est apparue en Italie ou bien en Autriche ou je ne sais où sur la planète, au Caire, etc., qu'il faut immédiatement organiser des charters et puis aller là-bas comme si c'était absolument indispensable à l'équilibre de notre foi. Garder raison et savoir que quand elle apparaît dans un lieu, c'est destiné à la population locale d'abord. C'est pour elle que c'est donné. C'est pas la peine de déranger la planète entière. Voilà. Pas d'attachement déraisonné. Quatrième règle, les sources d'erreur. Une personne qui est le récipiendaire d'une révélation authentique, même un saint canonisé, peut faire des erreurs dans la compréhension de cette révélation, ou en rapportant des expériences qui ne sont pas des révélations authentiques. Même un saint canonisé peut faire des erreurs. C'est pas peu dire, hein? Alors lui, il dit, il y a quatre types de révélations. Les révélations authentiques, celles qui sont discutables, celles qui sont fausses, puis celles qui sont truquées ou inventées. C'est vrai, c'est vrai. Cette distinction est tout à fait juste. Révélation authentique, révélation discutable, parce que c'est vraiment mêlé avec le psychisme de la voyante ou du récipiendaire. Révélation fausse, manifestement c'est faux, ou encore complètement truqué, inventé, etc. Et il donne quelques critères simples qui permettent de laisser tomber. Pour aller plus vite, hein, de laisser tomber une révélation privée sans se lancer dans beaucoup d'enquêtes, quoi, hein. Il dit pour cela, au moins, l'un des facteurs suivants doit se trouver dans le récit de la révélation. S'il se confirme, on peut rejeter la révélation. Donc voilà, il y a sept points sur lesquels Il dit, pour aller plus vite, quoi, si on veut se débarrasser des choses qui tiennent pas la route, si vous trouvez dedans l'une de ces sept choses, c'est que ça tient pas la route. Par exemple, le récipiendaire ou le voyant est de toute évidence un malade mental, ou bien la révélation contient des éléments psychotiques. Voilà, bon, à éliminer. Deuxièmement, la substance de la révélation est clairement contraire à la révélation divine avec un grand R, hein, traditionnel, et à l'enseignement de l'Église. Donc, à éliminer. Les révélations étant généralement vagues et quasiment jamais rapportées en termes théologiques, un certain temps est parfois nécessaire avant de parvenir à cette déduction. Troisièmement, la révélation, bien que non hérétique à proprement parler, est clairement inconsistante par rapport à l'enseignement de l'Église. Donc, voilà, ça laisse perplexe. Quatrièmement, un comportement net du prétendu voyant, qui se montre arrogant ou orgueilleux ou plein de morgue ou provoquant, suffit à disqualifier son récit. Cinquièmement, une fausse prophétie. Quand il y a une fausse prophétie qui s'avère fausse, hein, lorsqu'elle vient soutenir la supposée révélation, est signe certain que l'on a affaire à quelque chose d'inférieur au pouvoir de Dieu. Sixièmement, le Père Poulain conseille à la personne qui a reçu la révélation d'accepter l'idée qu'elle peut se tromper. D'accepter l'idée qu'elle peut se tromper. Quelques récipiendaires, parce qu'ils sont des gens simples, peuvent refuser cette éventualité et la considérer comme une infidélité à leur mission. Donc ils bétonnent dans leur truc, alors que quelquefois, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de distance et de force de réflexion pour prendre une distance. Et septièmement, un critère évidemment majeur, il faut immédiatement ignorer le récit de la révélation ou le récipiendaire s'il s'avère être impliqué dans la magie, l'occultisme ou le diabolique. Hein, le psychique ou même l'occulte peuvent avoir l'apparence des miracles. Le psychique ou même l'occulte peuvent avoir l'apparence des miracles. Une bonne méthode est d'avoir à l'esprit que l'inexplicable n'est pas nécessairement divin ou surnaturel. Dans tous les cas, la possibilité de manipulation ou d'interférence venant des forces diaboliques ne doit jamais être ignorée. En résumé, la preuve évidente de l'implication du récipiendaire dans tout ce qui sent l'occulte ou le diabolique, c'est une raison suffisante pour discréditer totalement son récit, la totalité de son récit. C'est vrai aussi dans le renouveau charismatique, où si des gens étaient plongés dans, comment peut-on dire, dans la médiumnité, par exemple, se convertissent et puis prétendent avoir ensuite des paroles de connaissance, des paroles de prophétie. Faire très attention, parce qu'il peut y avoir mélange des deux plans. Alors, vous avez cette phrase importante, on ne doit pas se sentir coupable d'être prudent, même si on est favorablement disposé à l'égard du message de la révélation. L'intelligence, le jugement et le discernement sont autant de dons de Dieu qui doivent être utilisés. Donc, ne pas se sentir coupable d'être extrêmement prudent. L'attitude historique de l'Église qui démontre la prudence souvent décriée de la hiérarchie de l'Église justifie amplement de résister à ceux qui exigent une acceptation totale de leur propre déclaration. Pour ça que c'était très ambigu quand Jean-Paul II est mort, vous vous souvenez, 2005, sur la place Saint-Pierre, le jour de sa sépulture, et on a vu surgir brusquement des banderoles qui avaient été soigneusement préparées, avec des grandes lettres, Santo Subito. Petite pression amicale sur le successeur pour accélérer la canonisation de Jean-Paul II. L'Église prend son temps et donc ne pas se presser. Critère très important, rester prudent et ne pas résister à ceux qui exigent une acceptation immédiate ou totale de leur propre déclaration. Très important, parce qu'avec le temps, on découvre des choses, hein, avec le temps. Songez qu'il y a des imposteurs invraisemblables. Je pense à la Légion du Christ, par exemple, cette congrégation. Donc le fondateur, Martial Maciel, était un homme pervers. Il a quand même réussi à rouler dans la farine trois papes, je crois, quatre papes, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, pas tellement eu le temps, et Jean-Paul II. Donc trois papes. Il avait une double vie, il avait plusieurs maîtresses, plusieurs enfants, il prenait de la drogue, il a perverti nombre des jeunes séminaristes qu'il avait à sa disposition. Il a roulé dans la farine trois papes. Il n'y a que Benoît XVI qui avait fait son enquête quand même très sérieuse. Dès qu'il est arrivé au pontificat, l'a immédiatement mis au pain sec et à l'eau. Bon, il est mort un an après, mais voilà. Être extrêmement prudent. Et là, on pouvait dire, il y a des fruits, mais il y a des fruits extraordinaires. 500 prêtres, 500 prêtres, il y a des fruits. Ah.